Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Et oui, du 1er au 29 mars 2020, CUT FM est sur les 5 continents. La francophonie fête ses 50 ans et le thème de cette année, rapprochons-nous. Potpourri Show et ses partenaires célèbrent la langue française et la francophonie. 50e anniversaire de la naissance du mouvement de la francophonie institutionnelle. Cet anniversaire est l'occasion de dresser un bilan et d'explorer les actions de la francophonie institutionnelle, son impact au Canada, dans le monde et l'évolution de ses politiques. Tout au long du mois de mars, Potpourri Show CUTFM, campus de l'Université de Toronto, vous invite et vous propose un riche calendrier culturel pour fêter les 50 ans de la francophonie. Cocktails, concerts, rencontres littéraires, conférences, jeux concours, dictées, slam, festival, soirée des talents, concours oratoire, humour et les rendez-vous de la semaine de la francophonie de Toronto. Et bien sûr, tout cela avec la danse des mots. À ne pas rater, mois de mars, mois de la francophonie, ayant pour thème « Rapprochons-nous ». Visitez notre site web www.potpourrishow.com. Découvrez la liste et les biographies de nos invités et partenaires. Vous avez un projet, vous avez une activité, un événement à nous proposer. Vous souhaitez participer à nos émissions en tant que partenaire, veuillez nous écrire immédiatement à potpourri@cut.fm. Toutes nos émissions sont réalisées en partenariat avec nos généreux partenaires. La Semaine de la Francophonie de Toronto, le CREFO, le Département d'études langagières, l'Université de Toronto, le campus de Mississauga, la Chaire de recherche du Canada en études des minorités, Waterloo University, la Société de la Francophonie manitobaine, les éditions Prises de Parole, le Salon du Livre à Niagara et Sophie Franc. Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24, l'Organisation Internationale de la Francophonie, l'Agence Universitaire de la Francophonie. Et nous avons aussi cette année, merci beaucoup, les Français de l'étranger de Toronto, EducNation Consulting, Noir et Psy et Radio-Canada. Du 1er au 29 mars 2020, la francophonie est en fête. CUTFM est sur les 5 continents. Et oui, Potpourri Show vous y invite, soyez-y. Potpourri Show, chaque dimanche de 11h à 13h, toute la diversité du monde sur votre fréquence. CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
Vous vivez une crise, vous avez besoin d'aide, mais vous ne savez pas où vous adresser. Notre partenaire, Yann, la thérapeute du cabinet Noir et Psy à Toronto, est là pour vous aider. Psychologue de formation spécialisée en approche interculturelle, Yann, la thérapeute, a une approche qui prend en compte l'aspect de la diversité culturelle, la langue et la compréhension des difficultés médicales de ses patients. Alors qu'on constate que la diversité culturelle et la langue française posent de vrais défis pour des cliniciens en santé mentale, la spécialiste et psychologue Yann la Thérapeute a déjà fait ses preuves. Yann la Thérapeute possède une expertise dans le traitement des problèmes complexes de santé mentale s'ajoutant aux difficultés d'adaptation. N'attendez plus, découvrez la clé du bien-être en toute discrétion. Abonnez-vous à ses blogs, à sa page Facebook. Noir et Psy avec Yann la Thérapeute dans CUT 89,5 FM Popourri Chaud. Noir et Psy, la santé mentale sans tabou. Par téléphone, le 437-775-8767 ou visitez le site web www.noirepsy.org. Soyez intelligent. Contactez Noir et Psy, Yann la Thérapeute. Aidez-vous maintenant. Noir et Psy, en partenariat avec Popourri Chaud et CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
L'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Le mot francophonie a une longue histoire. Lorsque le mot francophonie réapparaît en 1962 dans un numéro spécial de la revue Esprit intitulé « Le français dans le monde », Senghor fait une contribution sur le thème « Le français ». Langue de culture, des personnalités de différentes nationalités y ont également apporté leur contribution. En 1962, Senghor propose à Bangui, lors d'une réunion de l'Union africaine et malgache, de compléter les accords bilatéraux entre la France et les pays africains par des liens multilatéraux visant la construction d'un Commonwealth à la française. Il propose de commencer par des réunions périodiques des ministres de l'économie et des finances. En juillet 1966, lors de la réunion de l'Organisation commune africaine et malgache (OCAM) à Tananarive, il présente un projet de communauté francophone et suggère pour commencer des rencontres périodiques des ministres de l'éducation ainsi que la création d'un conseil africain de l'enseignement supérieur comprenant les États de l'OCAM et les autres États francophones intéressés par l'expérience. Plus naturellement, la France, ce sera le CAMES. En septembre 1966, à l'Université de Laval, il jette les bases qui conduisent à la création de l'Agence de coopération culturelle et technique en 1970. C'est dans le prolongement de la communauté et des conférences franco-africaines organisées par Georges Pompidou que Senghor a présenté en 1979 et 1980 un projet de communauté organique de la francophonie. Senghor a toujours été un acteur de premier plan de la francophonie. Il en a été un illustre bénéficiaire. Lorsque le Haut Conseil de la francophonie est créé en 1984, il en est le vice-président. Puis en mars 1991, il est nommé président d'honneur.
Et oui, mesdames, messieurs, en direct de Hot House Studio. Et oui, quel salon, hein, avec tous ces invités, les nombreux étudiants, les participants, les invités. Et oui, nous avons le cœur à la fête à l'Université de Toronto. Bienvenue dans le Popery Show. Et oui, la francophonie fête ses 50 ans du 1er au 29 mars 2020 sur les 5 continents. Édition spéciale du 50e anniversaire de la francophonie à l'antenne. Rapprochons-nous, en est le thème. L'ingénieur du son, le grand, l'unique, le maître, DJ Devera, l'ingénieur du son. Et aujourd'hui, son acolyte, nul autre que celui qui a le cœur en or, Sloane Ballan. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Et production, réalisation de cette émission depuis 33 ans, votre serviteur, madame, monsieur Eric Adair, avec vous jusqu'à 13h sur www.cut.fm, www.cut.fm. We say hello, welcome to all our friends in Germany, England et à Ottawa. Ils sont nombreux à nous écouter, à Port-au-Prince, Montréal, l'île Maurice et bien sûr beaucoup de gens dans la région de Dakar. Ils sont nombreux, les gens qui sont à Plougastel, à Rennes, oui, bonjour, nos amis bretons, et aussi à Paris, bien sûr, et nos amis à Lyon, un grand bonjour. Alors, les thématiques aujourd'hui qu'on va développer tout au long de cette émission, mais aussi tout au long du mois, il y aura des chroniques, des reportages, des événements, on parlera des événements francophones, bien sûr, sur la planète. On va parler de l'éducation, de diversité, il y aura des jeux, des prix, des découvertes littéraires, il y aura aussi l'humeur de Linda. Qui est Linda? Linda Jäger, qui est à TV5 Monde. Elle aime jongler avec les mots. Et elle nous écoute en ce moment. Les impostures de Madame Ledoux.
Bonjour, monsieur.
Alors, qui est Madame Ledoux? Vous allez voir les playlists francophones en Afrique et aussi au Québec et ailleurs. Les web radios. On parlera aussi du journalisme d'enquête avec une journaliste et amie de Radio-Canada que vous connaissez sans doute. On parlera bien sûr de numérique, de l'immigration, on parlera de l'écologie, les communautés LGBTQIA dans le monde et francophonie. Est-ce que ça marche ensemble, main dans la main? L'atelier des médias de Radio France Internationale. Enfin, beaucoup, beaucoup de thématiques qui vont vous intéresser, madame, monsieur. Je vous invite à participer à nos jeux concours, à nos questions. Répondez correctement. Et j'ai des prix de nos amis. Le Broadview Hotel qui nous offre des séjours ou encore des brunchs ou si vous voulez aller prendre l'apéro et avoir la belle vue sur la ville de Toronto, si vous demeurez ici, alors participez nombreux ou encore aller déguster un bon brunch au bistrot à la brasserie Gare de l'Est qui est situé coin Dundas et Carlaw dans l'Est, Leslieville, ouais. Alors, merci beaucoup à tous nos partenaires, ils sont nombreux et oui, ils sont très généreux cette année. La semaine de la francophonie, il y a toute une équipe qui travaille sur des activités projetées lors de la semaine de la francophonie à Toronto. Merci beaucoup le CREFO qui est notre partenaire de choix. OISI, l'Université de Toronto, merci. Le département d'études langagières, l'Université de Toronto, campus de Mississauga, chaire de recherche du Canada en études des minorités, Waterloo. La société de la francophonie manitobaine, oui, les manitobains nous écoutent régulièrement et ils vont nous partager un peu leurs défis, mais aussi les bonnes pratiques au sein des services en français au Manitoba. Les éditions Prise de Parole, ils sont actuellement au Salon du Livre de l'Outaouais. On parlera aussi d'un nouveau Salon du Livre qui se passe pour la première fois dans la région de Niagara et aussi de cet organisme Sophie Franc pour les femmes immigrantes de la région de Welland et Niagara Falls. Nous parlerons aussi de ces enquêtes, mais aussi de tous ces projets qui touchent la francophonie et qui se développent régulièrement sur TV5 Monde et France 24 et RFI. L'Organisation internationale de la francophonie et sa porte-parole, la personne qui en est responsable, est-ce que vous la connaissez, la nouvelle directrice, comment on appelle, ouais, de l'OIF sera aussi des nôtres. L'Agence universitaire de la francophonie, les Français de l'étranger de Toronto, merci, et enfin beaucoup d'autres. Alors, ce dimanche 1er mars, que nous réserve la programmation, nous recevrons Dr Emmanuelle Lepuchon-Wortmann, une femme extraordinaire. Elle est professeure adjointe et directrice du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne à l'Université de Toronto, et le CREFO est affilié, je vous rappelle, à l'Université de l'Ontario français qui vient de remporter une grande victoire cette semaine. Bravo, bravo, bravo à tous ceux et celles qui ont travaillé très dur pour avoir finalement cette université. Et on parlera aussi de Sangor, une pièce maîtresse de la francophonie, création du premier organisme intergouvernemental de la francophonie, l'Agence de coopération culturelle et technique, la CCT. Et Madame Céline Marcoux-Ahmad, elle est spécialiste des bibliothèques publiques de Toronto et elle est à la retraite aujourd'hui. Et elle va nous partager ses 30 ans d'histoire, 30 ans de combat, mais aussi elle va nous donner peut-être les bons coups qui ont été réalisés à la bibliothèque de Toronto, mais qui sont toujours méconnus. Fété Ngara Batoaware Kimbiopi, elle est entrepreneure, directrice générale de Sophie Franc, elle est auteure. Et elle vient de remporter un prix, une reconnaissance de la ville de Niagara pour son dévouement aux faits français. C'est très très intéressant hein, de voir que la ville arrive à reconnaître une francophone d'origine africaine. Alors bravo, elle sera des nôtres rapidement. Stéphane Cormier qui nous écoute en ce moment, elle est dans son hôtel quelque part ou en train de prendre son petit déjeuner. Au salon de l'Outaouais qui se déroule en ce moment, il est co-directeur général et directeur de la commercialisation aux éditions Prise de Parole et on fera un tour d'horizon des activités de la maison. Et aussi, on doit lui dire merci parce que il est partenaire de cette émission pour l'année. Dominique Denis, qui ne le connaît pas, il est directeur artistique, créateur de la série de spectacles de bouche à oreille, qui nous présentera un artiste québécois, peut-être méconnu parmi certains, qui s'appelle Philippe B, auteur-compositeur québécois. Et le spectacle est prévu pour le 6 mars, un concert à ne pas rater au Heliconian Hall, avenue Hazelton à Toronto. Je vous recommande d'écouter cette petite intervention de Dominique Denis vers 12h35. Et professeur Caroline Lebrec est quelque part dans la nature, mais elle est avec nous. Maître de conférence, responsable de liaison entre les étudiants et les équipes de pédagogie à l'Université de Toronto, le campus de Mississauga. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses, concours oratoire, soirée des talents. Enfin, elle est toujours très active et donc elle sera des nôtres pour clôturer cette émission. Et la question de ce jour, mesdames et messieurs, qui sont les pères de la francophonie institutionnelle? Qui sont les pères fondateurs de la francophonie institutionnelle? Répondez, courez la chance de gagner un brunch à la brasserie Gare de l'Est. Vous pouvez nous téléphoner aussi au 416-946-7000 ou écrivez-nous plutôt à popourri@cut.fm. Et oui, madame, messieurs, je dois remercier encore une fois du fond du cœur tous ceux et celles qui nous écoutent, qui nous appuient, qui contribuent financièrement, qui nous partagent leurs talents, leur cœur, leurs espoirs aussi, parce qu'il faut dire que depuis 2018, la francophonie a été un peu... On était dans des beaux draps, dans des sales draps, je ne sais pas. Hein? Alors, on va jouer aussi sur les expressions de la francophonie. Vous allez voir en Afrique, par exemple, que signifie l'expression « l'arbre à palabre ». Qu'est-ce que ça veut dire, l'arbre à palabre? Et en Belgique, on nous dit, donnez-moi un pistolet. Qu'est-ce que c'est, cette expression? Quoi d'autre encore? Ça se vend au marché noir. Pourquoi utilise-t-on cette expression? Ou encore, il n'a pas les pieds dans les mêmes sabots. Alors, j'ai entendu ça hier. Mais avant d'inviter ou de parler à notre premier invité qui est actuellement au Salon du Livre, Stéphane, j'aimerais vous partager et présenter aussi mes condoléances à toute l'équipe de RFI, TV5 Monde, France 24 et tous ceux et celles qui ont bien connu Hervé Bourges, grand diplomate, grande figure des médias et de la francophonie qui nous a quittés dimanche dernier. Et oui, l'équipe de CUTFM est profondément attristée par le décès d'Hervé Bourges, grande figure de l'audiovisuel français, grand défenseur de la francophonie. Il est décédé dimanche dernier à l'âge de 86 ans. Journaliste, patron successif des chaînes de télévision TF1, France 2, France 3, RFI et grand allié de l'équipe de CUTFM. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises lors de mon séjour à RFI dans les années 90. Il avait été à la tête du Conseil supérieur de l'audiovisuel de 1995 à 2001. Outre ses rôles éminents dans les médias, Hervé Bourges fut aussi un militant anticolonialiste du temps de la guerre d'Algérie, un amoureux de l'Afrique et un fervent défenseur de la francophonie. Il a même créé une école de journalisme au Cameroun. Né un 2 mai 1933 à Rennes, Ille-et-Vilaine, en Bretagne, il fut diplômé de l'école supérieure de journalisme à Lille en 1955. Et oui, sa vie fut ensuite un long parcours entre médias politiques et diplomatie, un temps ambassadeur de France auprès de l'UNESCO. Il avait signé en 2012 un dernier documentaire sur l'Algérie, l'Algérie à l'épreuve du pouvoir, avec le réalisateur Jérôme Sesca. Toute l'équipe de CUT 89,5 FM est bien sûr présente ses sincères condoléances à sa famille, ses proches, à ses amis et aussi aux nombreux collègues qui ont travaillé avec lui à RFI, TV5Monde et France 24.
Vous écoutez, vous allez apprendre quelque chose. Alors c'est parti, on y va. L'Afrique francophone,
la République du Congo, Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Cameroun, le Djibouti, le Rwanda, le Gabon, le Burundi, le Madagascar, le Tchad, le Niger, la République démocratique du Congo, Kinshasa, la République centrafricaine, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale.
Oui, du 1er au 29 mars, CUT 89,5 FM est sur les 5 continents et la francophonie fête ses 50 ans. Et cette année, le thème, rapprochons-nous, rapprochons-nous.
Qui ont le français comme langue officielle? Vous êtes en train de les apprendre. Continuez.
La République du Congo, Brazzaville.
Et oui, de quel livre tu te chauffes? Salon du livre de l'Outaouais 2020 est en cours, mesdames, messieurs. C'était le coup d'envoi jeudi dernier, si je ne m'abuse. Et notre partenaire de choix qui nous fait voyager depuis quelque temps, tout au long de l'année, au cœur des littératures de l'Ontario, du Canada et aussi du monde. Et il est avec nous pour cette émission de lancement. Nous sommes très, très, très heureux de l'accueillir. Il est co-directeur général et directeur de la commercialisation de la maison d'édition Prise de Parole, Ontario. Il est au Salon du Livre de l'Outaouais, madame, monsieur. Il nous fera un petit tour d'horizon des activités et des projets de la maison d'édition Prise de Parole. Accueillons en grande pompe notre ami Stéphane Cormier. Alors c'est le tapis rouge, hein, le tapis rouge pour lui, pourquoi pas. Il est le premier invité de cette émission phare du mois de la francophonie. Stéphane Cormier, bonjour.
Bonjour Eric, comment allez-vous?
Ça va très bien, ils sont nombreux ici en train de dire « Mais comment expliquer qu'il se passe encore des choses? Il y a des salons du livre en Outaouais, on en parle très peu ici à Toronto. Alors parlez-nous justement ce que vous avez vu, quelles sont les personnalités. Il y a même, je pense, une gagnante, quelqu'un qui a été désigné, le poète Jean Boisjoli, il me semble. »
Oui, le Salon du livre de l'Outaouais existe depuis longtemps. Hein. L'année dernière, c'était la 40e édition, 40e anniversaire, cette année 41e, avec une nouvelle direction générale. Donc, c'est toujours été un très beau salon. Puis, comme il est situé bon à Gatineau, il va chercher à la fois bon, des gens du Québec, mais aussi beaucoup de gens de l'Est ontarien.
Mmh. Est-ce qu'il y a des Français, des Québécois, des Africains, des maisons d'édition d'ailleurs qui participent à ce salon ou pas encore?
Ben, il y a des maisons d'édition d'un peu partout. Effectivement, tu sais, les salons du livre là, rassemblent là, des centaines de maisons d'édition au sein du Palais des congrès. Il y a des dizaines et des dizaines d'invités. Puis en Outaouais, ben, la particularité, c'est qu'il y a une présidence d'honneur, puis aussi des présidents des invités d'honneur pour les différentes régions, pour le Québec et l'Ontario. Donc, comme cette année, là, les invités d'honneur sont Naomi Fontaine, une poète et Inou. Puis du côté de l'Ontario, on a Jean Boisjoli, entre autres, et Michika Lavigne aussi, qui a rapporté récemment le prix du gouverneur général. Puis c'est un excellent salon avec une belle programmation. Moi, je l'aime beaucoup, en fait. On l'appelle souvent le plus petit des grands salons du Québec, après Montréal et Québec, l'Outaouais, ouais. Donc, est à dimension humaine. Ils ont une belle programmation.
Ouais.
Nous, hier, on faisait une soirée hors les murs de poésie, donc j'ai peut-être la voix un peu enrouée pour ça, parce qu'après, il y avait un bordel littéraire aussi qui a duré jusqu'à 1h du matin.
Bordel littéraire.
Nous, on faisait une soirée sur l'urgence avec 8 poètes, puis l'objectif, c'est toujours de rassembler des gens de peu partout au Canada. Donc hier, il y avait des poètes acadiens, il y avait des poètes ontariens, il y avait des poètes québécois. Puis, comme en 2020, il y a plusieurs urgences qui nous parlent au bout du nez, ben, on s'est inspiré de ça pour demander aux poètes de faire des textes de création puis nous donner un peu leur point de vue sur cette question-là.
Et d'ailleurs, le thème de ce salon, de quel livre tu te chauffes?
Oui, le salon de l'Outaouais est toujours un thème. Donc, l'année passée, c'était Ose le slow. Donc, c'est quel livre tu te chauffes? Je pense pas qu'on veut dire par là de lancer des livres dans le foyer, mais plutôt de se réchauffer avec des lectures pendant l'hiver, ça deux fois, c'est
parti. Alors, la maison d'édition est très, très, très sollicitée. Vous étiez en Allemagne, si je ne m'abuse, vous allez en Europe, au Québec, et vous faites un travail fabuleux. Vous êtes en train de lancer des nouveaux auteurs, autrices qui n'étaient pas connus du grand public et que nous allons recevoir comme Sylvie Bérard, nous allons recevoir Sophie Gourdeau, nous allons aussi recevoir Lucie Hoth. Parlez-nous un petit peu justement, rapidement, de ce qui se trame à la maison d'édition Prise de Parole.
Ben, chez nous, effectivement, vous avez mentionné Lucie Hoth. Lucie Hoth, là, qui est une professeure très bien établie, qui a de nombreuses publications à son actif, comme, entre autres, à titre de directrice d'ouvrage. Ben, elle a dirigé un livre avec Joanne Melançon de l'Université Laurentienne sur Robert Dixon. Robert Dixon, ça a été une personnalité très importante en Ontario, surtout au sein de Prise de Parole. En fait, c'est quelqu'un qui est un anglophone de Toronto. Qui avait un amour du français. Il a déménagé à Sudbury, a vécu en français et écrit en français. Puis c'est un homme qui a un grand parcours. Il a accompagné plein d'auteurs dans leur carrière littéraire. Il était relativement modeste par rapport à sa propre œuvre. Pourtant, il avait remporté le prix du gouverneur général pour Humain paysage en temps de paix relative. Et puis là, c'est la première monographie sur son œuvre.
Oui. Alors, Lucie, je vous rappelle, est professeure titulaire au département de français de l'Université d'Ottawa et elle sera des nôtres le 23 mars. Et parlez-nous un petit peu justement de ses contacts en Europe, y compris en Allemagne. Est-ce qu'il y a un peu d'espoir pour que nos auteurs franco-ontariens soient reconnus en Europe?
Bien, l'Allemagne, c'est un foyer du livre important hein, parce qu'il y a la plus grande foire de livres au monde là-bas, c'est la foire du livre de Francfort. Et puis le Canada sera le pays à l'honneur en 2020, donc en octobre. Donc ça fait trois ans que les éditeurs canadiens, les anglophones francophones, on sera à Francfort, puis on essaie de nouer des liens avec les éditeurs de l'Allemagne, oui, mais de l'Europe, de l'Afrique. Il y a vraiment de l'Asie, des éditeurs qui viennent de partout, dans le but d'avoir des livres traduits dans toutes les langues, mais surtout en allemand, pour la grande fête qui s'en vient en octobre prochain. Et puis, ben, en prise de parole, on a, entre autres, réussi à vendre les droits à une maison d'édition de Berlin, d'une autrice de Toronto, que vous connaissez certainement très bien, Margaret Anderson.
Bien sûr, bien sûr.
Avait publié La mauvaise mère, qui est un superbe roman de prose poétique là, qui retrace un peu son parcours, hein, parce qu'elle a grandi en Allemagne dans le temps des nazis, puis ensuite elle a voyagé ailleurs en Europe, elle s'est retrouvée au Maghreb avant d'émigrer au Canada. Donc, un beau parcours d'immigration. Puis, ben, elle avait laissé ses enfants en arrière, à un moment donné, pour se sauver, elle, comme femme. Puis ça, c'était pas un choix qui était évident. Bien sûr, elle a retrouvé ses enfants par la suite. Mais on en a toujours gardé un petit sentiment de culpabilité, d'où le titre « La mauvaise mère ». Ben, en fait, l'éditeur qui l'a acheté a complètement adoré ce livre-là. Il est en cours de traduction. Et puis... Donc, pour Marguerite, c'est une belle chose d'être traduit dans la langue du pays où elle est née.
Alors, Stéphane, je vous remercie de la part de toute l'équipe. Nous avons beaucoup, beaucoup d'invités aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs. Comme vous savez, je demande aux gens d'aller sur notre site pour avoir les liens pour entrer en contact avec les éditions Prise de Parole. Nous vous remercions du fond du cœur, hein, pour votre partenariat avec l'émission, avec la radio. Et là, les gens vont pouvoir, sur notre site, voir aussi et avoir tous les liens concernant les prochains invités de la maison d'édition Prise de Parole, qui seront tout au long du mois. Il va avoir chaque dimanche un auteur, une autrice pour parler de son œuvre, et nous sommes très très heureux de ce partage, de ce partenariat. Et je rappelle aux gens, Stéphane Cormier est co-directeur général et directeur de la commercialisation de la maison d'édition Prise de Parole, qui fait de très 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 belles rencontres littéraires un peu partout au Canada, mais même hors frontières et maintenant à l'étranger. Vous faites un travail de titan. Bravo et toutes nos félicitations, cher ami.
Bien, merci beaucoup et merci de donner une belle vitrine à nos auteurs ce mois-ci.
Ils sont nombreux à vous applaudir. Au revoir et bon salon de l'Outaouais. À très bientôt. Bon mois de la francophonie. Bon mois de la francophonie.
France 24. 4 chaînes d'information continue. 430 journalistes. 35 nationalités. 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com. Et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
CIUT 89.5, Toronto.
Il y a aussi nous. Nous qui luttons pour exprimer nos pensées. Nous qui luttons pour chercher le respect des autres. Nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte. Nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux. Nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels. Nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie. Nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à Rise and Shine.
Eh oui, qui sont les pères de la francophonie institutionnelle? C'est la question du dimanche. Répondez, courez la chance de gagner un brunch à la brasserie Gare de l'Est, rue Dundas, près de Carlo. Envoyez-nous un message immédiatement pour pourri@cut.fm ou encore le 416-946-7000. Un message de RFI Paris, la coronavirus bouscule nos antennes. Je vous invite à suivre en français les émissions spéciales de RFI TV5 Monde ou abonnez-vous à notre infolettre ou notre page Facebook. Je vous rappelle que près de 50 pays sont aujourd'hui touchés par le nouveau coronavirus. Chaque jour, nos médias décryptent les enjeux, les répercussions de cette crise, nous expliquent aussi comment les différents gouvernements et les citoyens s'organisent partout dans le monde. Que nous préparent les gouvernements? Sommes-nous prêts à affronter l'épidémie qui s'annonce?
稍後會繼續睇，而家先轉睇下本港多四宗。Virus
corona al-jadid kan hadiran biquwa fi khitab.
This virus still has the potential to erupt into a global pandemic.
De nouveaux cas de coronavirus repérés en Lituanie, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande et au Nigeria ces dernières heures. C'est la première manifestation de la maladie en Afrique subsaharienne. L'épidémie de coronavirus se répand. Près de 50 pays désormais sont touchés. Aucun continent n'est épargné. On parle de pandémie lorsqu'un nouveau virus grippal apparaît et se propage dans le monde entier. Si l'on s'en tient strictement à cette définition de l'Organisation mondiale de la santé, le Covid-19 ressemble de plus en plus à une pandémie. On verra avec nos invités s'ils sont d'accord avec cette définition. Une chose est sûre, la crise sanitaire désormais est mondiale. Qu'est-ce que cela implique? Quelle réponse lui apporter? Les premières mesures annoncées localement ou à plus grande échelle sont-elles à la hauteur? On va tenter de répondre à toutes ces questions jusqu'à 9h. Soyez les bienvenus.
D'être francophone au Canada, c'est ainsi.
La communauté est enragée, est fâchée.
C'est une claque dans la face qui donne à la population francophone de l'Ontario.
Ben, sans crise, ben nous autres, bon dire en bon français.
L'arrivée du nouveau gouvernement dans certaines provinces bouscule les services en français.
Nous allons nous battre pour notre université francophone et nous allons gagner!
On assiste présentement à l'une des plus grandes mobilisations de la francophonie canadienne. Pourtant, entre francophones, on est encore loin de se connaître.
Tout est autour de Montréal, tout est autour des représentations québécoises.
En fait, il y a 1 million de francophones qui vivent à l'extérieur du Québec.
Là, tout à coup, on sent qu'il y a une volonté de se réunir.
En 1970, l'Organisation internationale de la francophonie donne corps à une solidarité active entre 88 États et gouvernements membres, dont 27 observateurs. Elle est présente sur les 5 continents, où la langue française s'imbrique dans une mosaïque de langues et de cultures. L'Observatoire de la langue française de l'OIF recueille des données sur le terrain, les analyse et les restitue tous les 4 ans à travers le rapport « La langue française dans le monde ». Il répond ainsi aux questions suivantes. Qui parle le français? Qui apprend le français? Quels sont les usages de la langue? Comment pèse-t-il dans l'économie, le numérique et les médias? L'analyse des données collectées pour 2018 a permis de dresser un état des lieux. Avec 300 millions de locuteurs, dont 235 millions qui l'utilisent quotidiennement, la langue française est en progression de près de 10% depuis 2014. Elle est la cinquième langue la plus parlée au monde après le chinois, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Elle est langue officielle dans 32 États et gouvernements. Le français est parlé dans le monde entier. C'est également la langue officielle des Jeux Olympiques, dont toutes les annonces sont aussi faites en français. 59% des locuteurs quotidiens de français se trouve désormais sur le continent africain. L'espace francophone bénéficie de la dynamique démographique de ce continent. La langue française est enseignée dans tous les pays du monde en tant que langue étrangère au sein des systèmes éducatifs des pays, du réseau des instituts français et alliances françaises, des centres de langue, des départements de français des universités. Avec un nombre d'apprenants en progression constante, cela fait d'elle la deuxième langue étrangère la plus apprise au monde par plus de 50 millions de personnes. Le français est vecteur de l'alphabétisation, de l'instruction et de la formation de plus de 80 millions d'individus pour lesquels il est première ou seconde langue de socialisation sur 36 pays et territoires. En Afrique, la place du français arrive toujours au moins en deuxième position et parfois même avant les langues nationales. Les plus jeunes générations intensifient leur usage du français. Des formes variées issues de la langue française ou la combinant avec d'autres langues se développent. Elles représentent, avec la question de la qualité de l'éducation, l'une des clés de l'avenir de la francophonie. Entre 80% et 100% des francophones d'Afrique et du monde arabe souhaitent transmettre la langue française aux futures générations. De l'avis de ses locuteurs quotidiens, le français est la langue de l'école, utile pour travailler, pour les affaires, et elle n'est pas réservée aux intellectuels. Hors des pays francophones, la capacité à parler le français est un atout dans le recrutement des entreprises. Dans des domaines tels que les relations commerciales, les organisations internationales, l'hôtellerie et le tourisme. La maîtrise du français ouvre l'accès à des projets de mobilité internationale, notamment pour poursuivre ses études supérieures dans un des pays de ce grand espace francophone.
Écoutez la planète chanter.
Cette chanson, les feuilles mortes me rappellent à ton souvenir.
Adrabe narkoza, dingue dang.
Écoutez la planète chanter.
Francophonie, 50 ans déjà. Mais où va la francophonie? Comment notre partenaire Le Tréfaut célèbre le mois, la semaine de la francophonie cette année? Et oui, notre partenaire de choix, le CREFO, un centre de recherche interdisciplinaire de renommée internationale où on étudie les pratiques éducatives, sociales, langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Seul centre de recherche en son genre à l'Université de Toronto, les travaux de recherche y sont menés, portent sur l'étude de la francophonie et de sa diversité. Les professeurs, chercheurs et affiliés au CREFO appartiennent à plusieurs disciplines telles que la sociologie critique de l'éducation, la sociologie de l'enfance, de la jeunesse, l'anthropologie et la sociolinguistique. Le centre détient depuis quelque temps la responsabilité d'administratrice d'une nouvelle spécialisation conjointe intitulée « Éducation, francophonie et diversité ». Le CREFO, organisme qui tout au long de l'année va nous présenter une série de conférences en salle ou en ligne. Je vous invite d'être des nôtres tout au long de l'année pour avoir les détails et les dernières nouvelles du CREFO. Et je vous rappelle que tout au long du mois de mars, tout au long de l'année, nous allons recevoir les professeurs, les chercheurs, les conférenciers, conférencières du CREFO à nos micros. Et aujourd'hui, cette émission de lancement est placée sous l'égide de la directrice du CREFO. Elle est professeure adjointe, elle est née en Bretagne, ma terre d'adoption, et elle a travaillé pendant 10 ans dans le département de langue, littérature et communication de l'université d'Utrecht aux Pays-Bas. Ses recherches portent sur le plurilinguisme en éducation. Depuis 2009, elle a dirigé plusieurs projets nationaux et internationaux sur l'inclusion dans l'éducation des élèves issus des minorités. Mesdames et messieurs, accueillons Dr. Emmanuel Lepichon-Wortmann. Eh oui, c'est le tapis rouge, pourquoi pas. Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté notre invitation et merci surtout pour le renouvellement de votre partenariat avec la radio et je vous souhaite aussi un bon mois de la francophonie. Alors, comment allez-vous, professeur?
Bien, merci beaucoup pour votre invitation. Nous sommes très honorés
de faire partie de cette émission qui fait un travail formidable sur le plan de la francophonie. Donc, bravo.
Oui. Alors, le profond changement sociétal entraîné par les mouvements migratoires récents a créé le besoin de repenser les approches de l'enseignement, des langues. Et cela peut être des fois des défis énormes pour le monde de l'éducation. D'ailleurs, dans le monde, on connaît actuellement des transformations énormes. Ici en Ontario, pour les gens qui nous écoutent en ligne, il y a des grèves perlées depuis quelques mois par les différents syndicats des enseignants-enseignantes de l'Ontario. Et une de vos recherches nous intéresse beaucoup, itinéraire transculturel et nouvelle littératie, enfants nouvellement arrivés dans l'éducation. Alors, quels sont les messages clés de cette recherche, professeur?
Alors, c'est une recherche, à mon avis, très importante parce que tous ces enfants nouvellement arrivés doivent être inclus dans nos écoles et ils ont, en fait, ils ont tout un bagage éducatif, déjà académique même peut-être, et en même temps des mémoires, hein, des souvenirs qui sont là et qu'il faut savoir mettre en avant dans l'éducation. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent vis-à-vis de ces enfants. Donc les enseignants nous demandent par exemple, est-ce qu'on a le droit de faire entrer d'autres langues que la langue de l'école dans l'enseignement? Ils se disent, si j'interdis pas la langue des enfants, ils parleront jamais la langue de l'école. Ou bien même les enfants se posent des questions par rapport, ou les étudiants se posent des questions par rapport à leurs propres capacités. Hein. Moi, je viens de tel pays, je peux jamais être aussi bon qu'un francophone. Vous voyez, toutes ces questions qui sont en fait, qui relèvent de l'idéologie, mais qui ne sont pas fondées scientifiquement. Ou bien alors, cet élève, il peut pas commencer à travailler dans les différentes matières parce qu'il a pas un niveau de français suffisant. Ou bien un élève qui arrive, mais dont les capacités antérieures ne sont pas prises en compte. Donc, il dit, ma nouvelle école, elle est géniale, hein, je m'y sens bien, mais je m'ennuie parce que je refais tout ce que j'ai appris avant. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des questions essentielles sur lesquelles nous travaillons au CREFO de manière différente, et moi en particulier,
oui.
De manière à aider les enseignants à pouvoir mieux accompagner ces enfants à la fois l'apprentissage de la langue, mais aussi simplement l'entrée dans l'école, l'inclusion dans l'école et dans le parcours académique. Hein. Donc vous voyez cette mobilité académique qui fait que nous, les étudiants arrivent aux études supérieures.
Alors il y a tout un débat hein, au système de l'éducation, pas seulement en Ontario, mais au Canada. Il y a aussi une pénurie, il faut bien le dire, d'enseignants dans certaines villes, dans certaines provinces au Canada. Là où ça cloche un peu, si je peux utiliser le terme, beaucoup d'enseignants me disent qu'ils ne sont pas équipés, qu'ils ne sont pas préparés, ils n'ont pas les bons outils pour faire face à cette immigration qui est en train de prendre le dessus. On n'a qu'à voir le nombre d'élèves issus de l'immigration dans nos écoles ici, mais aussi dans les universités à Sudbury. Je regarde le nombre d'étudiants d'origine africaine, par exemple, qui postulent pour étudier à l'université Laurentienne. C'est quand même des nombres très importants. Donc il y a un clash en ce moment entre la tradition, je dirais, franco-ontarienne et la diversité qui arrive et qui épouse aujourd'hui nos traditions littéraires ou encore éducatives. Alors, comment expliquer, comment faire? Est-ce qu'il faudrait avoir des lois, des politiques un peu plus rigides au ministère de l'Éducation pour que, justement, ces professeurs aient une formation adéquate afin de faire face à cette réalité?
Alors, vous soulevez une question extrêmement importante. La première, c'est la question de la pénurie des enseignants. Moi, il me semble que le problème fondamental, c'est l'absence de reconnaissance du travail que font nos enseignants. Les enseignants, ce sont eux qui génèrent la connaissance. C'est grâce à eux que nous, scientifiques, pouvons avancer dans nos recherches pour comprendre qu'est-ce qui permet aux étudiants d'apprendre mieux, plus vite et de se sentir mieux dans l'éducation. Donc, je voudrais vraiment pousser un cri là, pour les enseignants parce qu'ils ont une des professions les plus nobles qui puissent exister et ils sont avant tout très mal reconnus. Donc, je voudrais vraiment, vraiment que nous et que le gouvernement actuel se pose la question de savoir, on a besoin d'enseignants, mais qu'est-ce qu'on fait pour eux? Je pense que c'est la première question à poser. La deuxième que vous avez posée, c'est nos enseignants ne sont pas équipés. C'est vrai. C'est vrai. Alors, c'est souvent l'histoire de la didactique, c'est-à-dire que elle a souvent du retard par rapport au changement. C'est-à-dire le changement arrive et puis après, on, malheureusement, on réfléchit après et on met tout en branle pour essayer de trouver des solutions et d'apporter des solutions. Il se trouve que le Canada a une très grande expertise dans le domaine de l'inclusion. Hein. Ça fait il y a plus de 40 ans de recherche. Mais hélas, très souvent, les recherches en didactique n'arrivent pas assez vite sur le terrain. D'abord parce qu'elles sont bloquées par des idéologies. Vous voyez, l'arrivée de francophones d'Afrique, par exemple, est une chance énorme pour la francophonie ontarienne. Hein? C'est, mais comme tout mariage, les mariages, c'est toujours difficile parce qu'il y a, il y a toujours un apprentissage qui doit se faire. Hein? Apprendre à se connaître, des démarches les uns envers les autres, ne pas avoir peur de l'autre et au contraire l'accueillir dans sa diversité. Hein? C'est tout le cœur de notre travail, c'est célébrer la diversité de manière à avoir un mariage réussi entre une francophonie ontarienne que je vais appeler traditionnelle, alors je ne sais pas si c'est le mot, qui est extrêmement forte, on l'a vu l'année dernière, hein, qui a une volonté et qui en plus a des droits, hein, donc une communauté extrêmement vivante et forte, et d'un autre côté une autre communauté qui arrive d'ailleurs, qui est francophone et qui arrive pour consolider cette première communauté. Donc c'est une richesse incroyable à laquelle il faut donner vie, qu'il faut absolument porter. Alors cela implique aussi de se décentrer, hein, c'est-à-dire d'arriver à retrouver une espèce. J'étais très impressionnée quand j'ai visité des écoles francophones ici à Toronto de voir la diversité des Français et des accents qui étaient parlés. Et je me suis dit quelle richesse. Mais je me suis dit aussi, quelle casse-tête ! Comment on fait pour évaluer ça ? Hein ? Comment fait-on pour évaluer, par exemple, ce qui est faute de grammaire, ce qui ne l'est pas ? Est-ce qu'il y a un Français qui prime sur les autres ? Bien évidemment que non. Donc voilà, tout notre travail, il est là-dessus. Et de, bien sûr, ce qui est aussi très important, c'est de créer une école qui ne soit pas glottophobe. Hein ? C'est-à-dire qui n'enlève pas à tous ces nouveaux arrivants les langues qu'ils amènent avec eux, hein, la richesse des langues qu'ils amènent avec eux, qui participent aussi au patrimoine. Hein. Vous avez parlé au début, c'était très beau quand il y a eu cette publicité sur l'Agence nationale pour la francophonie, qui parlait de mosaïque de langues et de cultures et de la place du français au sein de cette mosaïque. J'aime beaucoup l'image de la mosaïque parce que la mosaïque est une œuvre d'art. Hein. Et je crois vraiment que le français, non seulement doit participer, mais doit être moteur de cette œuvre d'art ici au Canada.
Alors, il y a Edith Yabrou, elle est blogueuse ivoirienne et elle était l'invitée dans une émission de TV5 Monde et France 24 il y a quelque temps de cela. Et elle parle justement de la pluralité de la langue. Il dit c'est bien pour la francophonie, il faut défendre cette francophonie internationale, mais il faut aussi en même temps reconnaître la pluralité de la langue. On écoute un court extrait de son intervention.
Surtout et le plus important, c'est qu'il y a une pluralité de manières de parler le français. Il n'y a pas une seule forme de français. C'est vrai qu'il y a eu des débats assez houleux sur un certain maintien de la protection d'un certain classique français. Mais ce que j'ai retenu surtout, c'est la diversité des participants qui venaient de différents pays, en particulier de pays africains, qui étaient également assez jeunes pour la plupart. Et le plus important, c'était surtout de comprendre aussi l'intérêt de la francophonie pour les francophones eux-mêmes et également même pour les Français. Et j'ai même découvert qu'il y avait un problème de compréhension même de l'utilité de la francophonie par les Français eux-mêmes. Donc c'était déjà un travail à établir. Mais aussi et surtout, comment favoriser la production francophone. Donc,
alors, c'est intéressant hein, ce qu'elle dit.
Ah, c'est tout à fait passionnant et elle a parfaitement raison. Même les gens, par exemple, qui sont monolingues, qui ne parlent, disons, que le français, même s'il n'existe presque plus, sont plurilingues aussi parce que nous sommes capables de passer d'un registre à l'autre, en quelque sorte à l'intérieur d'une langue à l'autre. Vous savez, on s'aperçoit de plus en plus, en particulier en linguistique, mais dans d'autres domaines aussi, que les frontières des langues sont extrêmement poreuses. Mais c'est pas pour ça que ça les rend faibles. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
Cependant, les langues ont été utilisées par les politiciens, c'est important de le dire. Elles ont été utilisées par les politiciens dans cette optique d'unifier les nations. Hein. C'était la grande époque d'une langue, une nation. On se rend compte que c'est pas du tout le cas, qu'on peut vivre autrement, et en particulier au Canada et en Ontario. Et je pense que si le Canada peut avoir un rôle et continue d'avoir, à vrai dire, a déjà eu, c'est pour ça que je suis venue. Moi, je suis venue pour ça, hein, pour profiter de cette expertise canadienne en matière de plurilinguisme. Et quand je dis plurilinguisme, c'est pas simplement, cette femme a raison, pas simplement des langues différentes, mais aussi des Français différents, la richesse des Français différents.
Alors, il y a justement un métissage, et c'est très beau de voir des artistes, des auteurs, des francophones de toute origine se rassembler pour parler de leur expérience, de leur parcours. Et il faudrait peut-être justement, et la radio est là, hein, des vecteurs pour célébrer cette diversité. Et je rappelle aux auditeurs que je suis avec Dr Emmanuel Lepichon-Wortmann. Elle est professeure adjointe et directrice du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne. Le CREFO est partenaire de cette émission. Il y a un élément qui nous intéresse et qu'on pourra développer tout au long de l'année, si vous le souhaitez, c'est cette nouvelle responsabilité du CREFO, cette nouvelle spécialisation conjointe intitulée « Éducation, francophonie et diversité ». En deux mots, qu'est-ce que cela englobe et pourquoi cette nouvelle initiative ?
Alors, cette nouvelle initiative est extrêmement importante parce que ça veut dire que les étudiants qui arrivent à l'IEP, l'Ontario Institute of Studies in Education, c'est-à-dire, peuvent suivre entièrement leurs études en français maintenant en entrant dans cette spécialisation conjointe éducation, francophonie et diversité. Ça n'était pas le cas avant. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent venir chez nous et suivre entièrement un parcours francophone à l'intérieur de notre institut, qui est une grande avancée. On est très heureux de ça.
Oui. Et je rappelle aux gens que vous êtes maintenant affilié à la nouvelle université de l'Ontario français qui vient de marquer un très bon coup cette semaine. On aura l'occasion d'en parler. Écoutez, un vœu pour terminer, on me dit que le temps passe, un vœu pour ce mois de la francophonie, pour le 50e anniversaire de la francophonie institutionnelle, pour tous nos auditeurs, les étudiants, les personnes qui nous écoutent en ligne en ce moment.
Oui, très certainement, que la francophonie devienne toujours plus inclusive et sache célébrer sa diversité.
Alors, professeur Emmanuel Lepichon-Wortmann, vous allez nous présenter d'autres chercheurs, d'autres professeurs tout au long du mois et tout au long de l'année. D'ailleurs, il y a une de vos professeurs, Hélène, comment s'appelle-t-elle, qui revient de Bretagne, qui a eu un prix, je pense.
Oui, Monica Heller.
Monica Heller.
Elle a reçu un doctorat honoris causa de l'Université de Bretagne occidentale.
Super, super, super.
Et elle fait notre fierté, voilà. Ouais.
Et vous savez que moi, j'adore la Bretagne. Alors, donc, ça tombe bien. Donc, je vous dis un bon mois de la francophonie et merci encore.
Merci beaucoup à vous aussi.
On se reparle très prochainement. Au revoir.
À bientôt.
Et oui, année 2020, 50 ans de francophonie institutionnelle. Comment se porte la francophonie? Pourquoi les francophones du Canada se connaissent si peu? Nous allons recevoir Céline Marcou-Hamad dans la deuxième heure. Dominique Denis sera des nôtres et professeur Caroline Lebrec. Mais aussi, nous allons passer par Niagara avec Fété Ngara Bataware Kimbiopi de Sophie Franck qui nous présentera le salon du livre, premier salon du livre de Niagara. Le point de l'actualité de RFI, je vous souhaite un bon mois de la francophonie, restez des nôtres.
Solo est un vrai,
ohé, ohé, ohé. CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Your radio, CIUT 89.5, the sound of your city.
RFI Matin.
Jeanne Bartoli aux États-Unis, Joe Biden remporte la primaire démocrate en Caroline du Sud.
L'ancien vice-président de Barack Obama est crédité de 49% des voix, loin devant Bernie Sanders à 20%. Résultat partiel portant sur 95% des bureaux de vote. Cette victoire le relance dans la course à l'investiture après les mauvais scores des trois premiers votes de la primaire démocrate.
Le bilan du coronavirus s'approche des 3000 morts dans le monde.
86 000 cas au total dans une soixantaine de pays, dont 79 000 en Chine. En France, 100 cas sont désormais recensés. Hier, Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, a donné son point presse quotidien sur la situation.
Ce jour, à 18h, nous avons 100 cas confirmés sur le territoire national. 12 guéris, 2 décédés. Le touriste chinois et l'enseignant de l'Oise décédé à la Pitié, 86 hospitalisés, dont 9 dans un état grave. Ce bilan est lié à un important cluster dans l'Oise. L'investigation des deux cas initiaux de l'Oise, les cas 15 et 17, a permis de détecter cet important cluster qui est désormais de 36 cas au total, donc plus 18 par rapport à hier, par des contacts professionnels et familiaux. Nous avons un autre regroupement ou cluster en Haute-Savoie, sans rapport avec une station de ski, à La Balme, près d'Annecy. Ce cluster est désormais constitué de 9 personnes, donc 3 de plus que le dernier bilan. Ce soir, nous avons plusieurs clusters ou cas groupés, des chaînes de transmission dans l'Oise et des explications pour la majorité des cas. Les enquêtes restent en cours et j'en profite pour remercier les professionnels de santé et les enquêteurs pour leur engagement sans faille, nuit et jour.
Jérôme Salomon au micro d'Arem Beng. Et le gouvernement a annoncé plusieurs mesures supplémentaires. Tous les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné sont désormais annulés. Conséquence, le salon de l'agriculture a été écourté. Dans l'Oise, région où vous l'avez entendu, les cas sont les plus nombreux. Des établissements scolaires ont été fermés, les offices religieux annulés, tout comme le semi-marathon de Paris prévu aujourd'hui.
RFI, la radio mondiale. Il y a bientôt 15 ans, RFI, une trentaine de radios d'Afrique et de l'océan Indien, décidait de se réunir afin de créer un concours permettant aux artistes du Sud de sortir de leur isolement et d'accéder à la scène internationale. Ainsi naquit le concours Découverte, qui s'est progressivement ouvert à toute l'Afrique francophone, puis anglophone et lusophone, et enfin aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Découverte est donc bien aujourd'hui le plus grand concours musical au monde. Mais revenons à 81. Le grand gala clôturant le concours se passait à Dakar, parmi les lauréats, Nawa Doumbia, du Mali.
La radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
La francophonie fête ses 50 ans. Rapprochons-nous, en est le thème. Popourri Show et ses partenaires célèbrent la langue française et la francophonie tout au long du mois de mars sur les 5 continents. Cet anniversaire est l'occasion de dresser un bilan, d'explorer les actions de la francophonie institutionnelle, son impact au Canada, dans le monde et l'évolution de ses politiques. Tout au long du mois de mars, Popourri Show et ses partenaires vous invite à un programme exceptionnel et festif. Mois de mars, mois de la francophonie, rapprochons-nous. Et oui, des données recueillies par la Bibliothèque publique de Toronto entre 2006 et 2015 indiquent que le taux d'emprunt de matériel en français a augmenté de 9,1%. Ça, c'est selon un article de Radio-Canada publié le 1er avril 2016. Et de plus en plus, dans le même article, on peut lire, de plus en plus de francophones utilisent les services de la Bibliothèque publique de Toronto. Le taux d'emprunt de matériel en français a augmenté substantiellement au cours des 10 dernières années et la bibliothèque a aussi augmenté le budget consacré à l'achat de livres en français et reçoit de plus en plus de demandes visant à accueillir des groupes de lecture en français. Mais en janvier dernier, coup de tonnerre, l'annonce du retrait soudain de 26 000 livres en français des collections de 25 bibliothèques du Grand Toronto sème l'émoi. Et l'ancienne grande responsable des services en français aux bibliothèques de Toronto, aujourd'hui à la retraite, était visiblement sous le choc après cette annonce du retrait soudain de 26 000 livres en français des collections de l'organisation. Et à la retraite, depuis 2 ans, elle met en doute les chiffres de son ancien employeur et dénonce une décision insensée dans la métropole d'un pays bilingue. Erreur de jugement, mépris aux francophones, suite à un lever de bouclier de la communauté francophone de l'Ontario, revirement de situation, et il faut noter ici que personne n'a payé un prix pour cette gaffe. Mesdames et messieurs, accueillons avec plaisir celle qui a travaillé plus de 30 ans dans les bibliothèques publiques, incluant 14 ans comme la première spécialiste des services en français pour les bibliothèques publiques de Toronto. Elle est à la retraite depuis 2018. Elle détient aussi les palmes académiques, le prix Jean-Baptiste Rousseau de la Société d'histoire de Toronto et le prix Micheline Perceau de l'Association des bibliothèques de l'Ontario. Mesdames, messieurs, Céline Marcoux-Hamad. Et oui, ça vaut le tapis rouge, Madame Céline Marcoux-Hamad. Merci beaucoup d'être des nôtres et je vous souhaite un bon mois de la francophonie.
Merci beaucoup, Philippe, et à vous aussi.
Et oui, merci pour votre service. Je sais que vous êtes à la retraite aujourd'hui, mais tout au long de votre vie, votre existence, votre travail aux bibliothèques publiques de Toronto, vous avez dit quelque part dans un média, j'ai lu ça quelque part, que vous avez mené, on vous a mené un peu la vie dure des fois. Est-ce que vous pouvez nous partager brièvement vos péripéties, mais aussi les bons coups que vous avez réalisés lors de votre travail aux bibliothèques publiques de Toronto?
Je peux penser à plusieurs. J'en ai deux qui me viennent en tête. Il y avait une brochure qui était faite, qui était traduite de l'anglais, si on veut dire, mais avec des recommandations de livres en français, à être envoyée dans toutes les écoles de langue française pour les élèves de maternelle et jardin. Mais sur la brochure, en très gros, qui prenait presque la moitié de la page, c'était en anglais. C'est marqué « ready for reading » et non « prêt pour la lecture ». Et quand on m'a présenté ça, moi j'ai dit non, c'est complètement inacceptable. Et j'ai fait quelque chose qui était un peu poussé, mais qui a fonctionné à la fin. On me disait, non, il faut absolument que ça soit comme ça et tout ça. J'ai dit, écoutez, si les parents et les écoles reçoivent ça, ce qu'ils vont faire, puis moi, j'ai pris le dépliant et je l'ai envoyé à travers la salle. On était dans une réunion. Les gens m'ont regardé un peu bizarrement. Et la personne qui était la deuxième en charge des bibliothèques à ce moment-là, ça fait plusieurs années de ça, elle a pris une minute pour réfléchir, puis elle a dit, vous savez, Céline a leur raison, changez-le.
Mais comment expliquer justement que les gens soient si insensibles aux francophones?
En partie, j'aimerais dire que c'est en partie une incompréhension. Les gens oublient, malheureusement, il faut leur rappeler régulièrement, que le français est quand même une des deux langues officielles du Canada. C'est sûr que dans une ville comme Toronto, il y a probablement plus de gens qui parlent d'autres langues que le français. Alors, c'est sûr que les gens oublient que le français est si important que ça. Par exemple, un autre exemple qui vient, on voulait faire est-ce que c'était des blogs? Il y avait quelque chose qu'on voulait faire sur le site Internet et donc, c'était dans la brochure de Watson qui fait la promotion de tous les programmes. Et je voulais avoir une page en français dans ça. Et on m'a dit, ah ben non, si on a une page en français, il va falloir en avoir une en d'autres langues. Ah. Alors, non. Je leur ai dit, non. J'ai pas de problème s'il y en a dans les autres langues, mais vous pouvez pas comparer les autres langues au français. Une des deuxièmes. Alors, je me suis battue avec ça et finalement, pendant plusieurs années, on a eu une page en français dans Watson. Mais il faut leur faire comprendre. Il faut toujours être là pour se défendre. Alors, c'est ça qui est toujours difficile à la fin parce que c'est toujours à reprendre parce qu'on a du nouveau personnel à la bibliothèque. Les gens oublient ou les gens pensent qu'on s'est endormi puis qu'on va oublier comme ils ont fait maintenant avec en essayant de couper les collections. Et il faut se réveiller puis il faut leur rappeler que oui, on est là, on est important. Et qu'on a besoin de nos services.
Alors justement, sous votre responsabilité, sous votre direction, il y avait quand même un florilège de programmes, de livres. Je pense que les emprunts avaient même augmenté. La majorité des gens étaient extrêmement contents de voir les améliorations des services en français à la bibliothèque publique. Comment expliquer justement ce coût dont a subi les francophones au mois de janvier?
Encore une fois, ça revient à l'incompréhension. Et bon, ils disent que le taux de circulation a baissé. Puis là, vous avez parlé que bon, j'ai pas vraiment les chiffres devant moi spécifiquement, mais on sait tous que ceux qui ont travaillé avec les chiffres, on sait qu'on peut faire parler les chiffres de la façon dont on veut. Alors, les premiers chiffres qui ont sorti de la Bibliothèque de Toronto, quand on a commencé à se battre en leur disant que c'était pas correct ce qu'ils faisaient, c'est que le taux de circulation des livres ou du matériel multilingue et francophone avait baissé de 47% en, disons, 2-3 ans. 3 ans, on va dire. Ah oui, OK, c'est beaucoup. Finalement, c'était pas 47% pour les livres en français. C'est quand même assez haut, ce qu'ils disent. 25%, c'est quand même assez fort de baisse, mais c'était pas 47%. Mais eux, ils ont utilisé les chiffres qui faisaient leur affaire. Alors, c'est sûr que ça arrive. Pour le taux de circulation en français, il faut quand même penser, puis j'aime pas ça le dire, mais depuis que je suis partie, il y a beaucoup, beaucoup moins de publicité, de promotion, de réseautage qui se fait dans la communauté. Alors, c'est sûr que les taux de circulation vont baisser parce que les gens oublient, la population change. Faut pas dire on leur a parlé il y a 5 ans, c'est assez. Faut continuer toujours d'être dans la communauté, en faire la promotion, parler aux gens, être disponible quand les gens ont des questions, veulent en discuter. Il faut être là. Puis là, les gens s'en rappellent. C'est ça qui fait monter une partie de la raison qui fait monter le taux de circulation.
Ce qui est aussi étrange, c'est que on n'a pas su le fond de l'histoire. Parce que du jour au lendemain, quand il y a eu soulevé de boucliers de la part de l'ACFO et tant d'autres organismes et des individus, des journaux francophones, on a changé de cap au jour au lendemain. Donc, pour moi, il y a un petit problème qui reste inexplicable.
Dans quel sens? Qu'est-ce qui a provoqué la décision? Ou bien, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont changé d'idée?
Oui, en effet. Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'ils ont changé d'idée pour remettre la collection à leur place? Parce que je pense, si c'était un problème de fond au niveau économie, au niveau programme, s'il y avait un déficit quelque part dans leur budget, ils auraient pu arriver avec des éléments à l'appui pour prouver les raisons qui les ont poussés à prendre cette décision. Or, quand il y a eu des protestations, vous vous souvenez, hein, tous les journaux, et ils ont changé de cap le jour au lendemain. Alors, ça, c'est ça que je trouve un peu bizarre.
Ben, je ne sais pas si vous avez entendu, pas sûr c'est ce que vous voulez entendre, ou ce que, mais ce qui est arrivé finalement, c'est que Mélanie Joly a eu vent des coupures. Comment, je ne sais pas.
Alors, Mélanie Joly, c'est la ministre fédérale, patrimoine canadien.
Mm-hmm. Alors, elle a eu vent des coupures et elle a contacté le maire de Toronto, John Tory, John Tory a contacté Vickery Ball, qui est la bibliothécaire en chef des bibliothèques de Toronto. Et ce qui est sorti à ce moment-là, c'est qu'ils ont renversé la décision. Alors, ça s'est fait, honnêtement, entre le temps que le premier communiqué de presse est sorti le jeudi, on va dire le jeudi après-midi, je pense que c'était le 10 janvier. Le vendredi 11 janvier, dans la soirée, on m'a dit qu'ils renversaient la décision. Alors, ça s'est fait extrêmement vite. Est-ce qu'il y aurait eu des changements si les parlementaires s'en étaient pas mêlés? Je crois que oui, mais beaucoup moins rapide. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que, par exemple, moi, je suis allée à une bibliothèque dans l'est de la ville à Scarborough, la bibliothèque de Cedarbrae, avant que le communiqué de presse. Donc, je pense que c'était le 5 janvier. Et il y avait déjà une partie de la collection qui avait complètement disparu.
Incroyable.
Elle est jamais, on ne sait pas où elle est vraiment. On m'a dit toutes sortes de choses, mais d'après moi, cette partie de collection est complètement disparue. Et ça fait aussi partie, ce qui est très important, puis ça, je veux vraiment le mentionner. Une des décisions qui avait été prise, c'était que tous les livres pour adolescents étaient pour être enlevés des tablettes. Ils n'en achetaient plus, c'était fini. Ça veut dire que notre jeune adolescent de 14 ans qui voulait lire un livre en français, ben c'est bien de valeur, mais où il lit un livre d'enfant, où il lit un livre d'adulte, où il les achète. Mais il n'y avait plus rien pour lui à la bibliothèque. Alors maintenant, il va avoir une bibliothèque où il va avoir une collection pour adolescents. C'est pas suffisant, mais en fait, c'est mieux que zéro.
Oui, alors je rappelle qu'il propose aussi des livres à papier, numérique, audio. On trouve des nouveautés, les meilleures ventes, les classiques de la littérature jeunesse et des BD. En principe, on verra bien, mais je pense que les gens doivent être très vigilants. Et nous sommes très, très heureux de voir que malgré, vous êtes à la retraite maintenant, vous n'étiez pas obligé d'aller assister à des réunions à l'hôtel de ville de Toronto et parler de ça, mais vous êtes, on voit, très engagé dans le fait français à Toronto. Je rappelle aux gens que vous avez travaillé à Céline Marcoux-Hamad pendant quoi? Plus de 15 ans, 14 ans?
14 ans dans les bibliothèques publiques de Toronto en étant la spécialiste des services en français. Oui. J'ai aussi travaillé 16 ans pour les bibliothèques publiques de Vaughan où, bon, je travaillais pas en français du tout, mais une journée par année, j'allais à la librairie Champlain, puis j'achetais des livres en français, puis c'était ma journée merveilleuse de l'année.
La librairie Champlain, la belle époque, Écoutez, je vous souhaite un très très bon mois de la francophonie et je vous remercie encore de la part de tous les auditeurs, les étudiants, nos partenaires pour le beau travail que vous faites et merci d'avoir participé à cette émission de lancement du mois de la francophonie 2020 et on célèbre cette année les 50 ans de la francophonie, donc nous sommes très fiers de vous avoir parmi nous aujourd'hui.
Merci, bon anniversaire.
Au revoir.
Francophonie.
Avec vous, Dominique Bayer, bonjour.
Oui, madame, s'il te plaît, tu peux me dessiner un francophone?
Et oui, madame, monsieur, 50 ans de francophonie, ça se fête. Et j'espère qu'on va se rapprocher, on va s'aimer, on va danser. Et je vous rappelle que du 6 au 7 mars 2020, le Sophie Franc, l'organisme qui aide les femmes immigrantes dans la région du Niagara, organise son premier salon du livre. On en parle dans quelques minutes, je pense, qu'elle est avec nous. Et le 7, du 7 au 3 août, il y a aussi des expositions très intéressantes au Musée Royal de l'Ontario qui parraine cette émission. Le 8 mars, nous allons recevoir Sylvie Bédard avec son livre « À croire que j'aime les failles » aux éditions Prise de Parole. Je vous rappelle qu'elle enseigne la littérature des Premières Nations et de la littérature franco-canadienne à l'Université de Trent, en Ontario. Ses recherches et travaux portent sur la littérature autochtone, le queer et la science-fiction. Elle a remporté le prix de Poésie Trillium pour son recueil « Oublié ». Et le 8 mars 2020, ne pas rater, Natasha McDonald Dupuis, journaliste trilingue à Toronto, affectée à l'enquête, présentatrice de bulletins de nouvelles, réalisatrice et documentaires diffusés à Radio-Canada, CBC et TV5Monde, sera des nôtres. Donc nous sommes très choyés. C'est un programme très très riche, haut en couleurs, et un programme festif, bien sûr. Il y aura aussi des chroniques, des reportages. Nous allons aussi parler, avant la fin de cette émission, mais aussi tout au long de la semaine et du mois, du concours oratoire, la soirée des talents qui se déroule chez nos amis étudiants, le campus de l'université de Mississauga, avec Caroline Lebrecq. Professeur Lebrecq sera des nôtres pour clôturer cette première émission de lancement. Et oui, mon prochain invité est entrepreneur, directrice générale de Sophie France, solidarité des femmes immigrantes francophones du Niagara. Elle est auteure, membre du conseil des gouverneurs de l'Université de l'Ontario français. Elle vient d'être honorée par la ville de Niagara Falls dans le cadre du projet de tolérance sociale et raciale en tant que maire. Oui, en tant que maire pour toute une communauté. Et elle est avec nous aujourd'hui. Bien sûr, j'ai nommé Fété Ngara Bataware Kimbiopi. Bonjour Fété.
Bonjour Eric, est-ce que je peux vous aider à prononcer mon nom?
Oui, alors Fété.
Oui, je sais que c'est pas facile, c'est Ngira Bataware.
Alors,
Kimbiopi. Voilà.
Ngira Bataware.
Oui, c'est ça, parfait. Oui. Merci beaucoup, mais est-ce... par la suite, appelez-moi tout simplement Kimbiopi, ce sera plus facile pour vous.
Oui, ou encore Madame Fété, parce que on est dans la fête aujourd'hui.
Absolument,
parce qu'on oui. fait 50 ans de francophonie institutionnelle. Oui. Moi, je me rappelle de cette agence culturelle à l'époque. Et les gens méconnaissent encore, on parle aujourd'hui de cette francophonie d'aujourd'hui et actuelle, mais il y a des gens qui se sont battus, et surtout des présidents africains, Senghor, pour ne pas le nommer. Mmh. Et aujourd'hui, si vous et moi, nous parlons le français dans une terre très anglophone, qui change de couleur, et aujourd'hui, donc c'est grâce à tous ces acteurs importants, ces actrices, ces personnalités qui ont influencé le monde de la francophonie.
Absolument, c'est vrai que l'histoire de la francophonie, ça me fait penser, d'ailleurs l'année passée j'ai eu à aller expliquer ça dans une école d'immersion ici dans le Niagara, ça m'a permis à moi personnellement aussi de retourner un peu sur notre histoire, l'entrée de la francophonie dans les pays africains et des Caraïbes aussi, mais c'était un très long parcours en fait, hein, donc ça remonte à des siècles maintenant, au fond, c'est venu avec la colonisation, n'est-ce pas, oui. Et puis la traite. Et il y a ce qui est merveilleux dans cette francophonie, c'est que certains peuples, certains leaders noirs particulièrement, comme Senghor, comme vous l'avez cité, les Aimé Césaire, etc., toutes ces grandes figures de marque de la francophonie, se sont appropriés du français, de la langue française, en fait, pour s'exprimer et en même temps pour rayonner cette langue, mais montrer le côté positif de ce qu'elle pouvait apporter en tant que langue à nos populations pour pouvoir nous exprimer et aller au-delà de nos frontières et être non seulement présent, vivant et s'exprimer de manière très compréhensible.
Alors,
il faut célébrer.
Ça. Oui, vous êtes directrice de ce centre qui fait un travail fabuleux pour les femmes immigrantes et vous avez eu un spectacle hier soir. Et la ville de Niagara Falls, récemment, vous a reconnu en tant que maire pour toute la communauté. C'est un honneur pour vous, mais aussi pour toute la communauté immigrante, il faut bien le dire, parce que je pense qu'il faut qu'il y ait de la solidarité parmi nous. Quand il y a un des nôtres qui est honoré, qui est reconnu, il faut applaudir cette action. Et donc, bravo, félicitations. Et on ne pouvait pas lancer cette émission sans vous inviter, parce que pour nous, nous sommes très, très heureux de tout ce travail que vous faites. Et voilà que maintenant, la ville vous reconnaît. Alors, qu'est-ce que cela vous a fait? D'ailleurs, c'était une surprise, il me semble.
Une vraie surprise, et quand j'ai pris la parole, je leur ai dit d'ailleurs que ça me fait penser un peu au film comique où on annonce une bonne nouvelle, mais la personne est tellement surprise qu'on finit par une crise cardiaque, quoi, avec une crise cardiaque. Alors, donc, oui, c'est vrai, c'était une très grande surprise, une très bonne surprise qui a été très bien gardée par deux complices, et j'étais tout à fait à des milliers de lieux de m'imaginer que c'était moi qui étais fêtée. Enfin, j'étais pas la seule, mais deux, il y avait une autre dame de Niagara Falls, d'origine kényane aussi. Mais ce sont des jeunes, il faut, moi, avant de parler de ma réaction, c'est surtout les jeunes gens qui ont organisé ça. Ce sont des jeunes qui sont en train, effectivement, de promouvoir l'antiracisme dans le Niagara. Et ça, c'est extrêmement important à signaler. Mais je pense que quand on est reconnu comme cela, ça fait... moi, personnellement, ce que je peux dire, c'est que quand la communauté me reconnaît, c'est que j'ai su la reconnaître d'abord avant. Parce que je ne peux pas recevoir ce prix sans que la communauté ait été là et m'ait donné cette opportunité de la servir. Mmh. Et... C'est un double honneur.
Oui. Alors, rapidement, nous allons devoir vous laisser. Malheureusement, nous avons plusieurs autres invités pour les 30 minutes qui nous restent. Alors, Nafi Faigou était à l'émission la semaine dernière pour nous parler de votre programmation. Et aussi, je dois dire qu'il y a le premier salon du livre francophone du Niagara qui démarre le 6 et le 7 mars. Ça aussi, c'est un bon coup pour les auteurs de la région d'ici. Et donc, vous attendez beaucoup de gens. Je pense que le professeur Amadou Ba sera des vôtres. Il me semble.
Oui, professeur Amadou Ba, il y a aussi Bodhi Ngoy qui est un BDiste qui vient d'Ottawa, et puis Gaston Mabaya qui vient de London, Normand Savoie qui est Ariane Maté qui vient de Toronto. Gabriel Osson n'est pas là, mais il sera représenté. En tout cas, on a fait...
Bravo, félicitations. Cet événement, madame, monsieur, cet événement inédit aura lieu dans le foyer du campus de Brock University. Allez sur notre site, vous allez avoir tous les liens du Sophie Franc, de ce Salon du Livre qui est partenaire avec nous, et nous sommes très, très fiers de célébrer la francophonie avec les gens du Niagara, et j'espère pendant tout le mois de mars et tout au long de l'année, parce que nous célébrerons les 50e anniversaire de la francophonie. N'hésitez pas à nous partager les talents, les auteurs, les personnalités de votre région. Nous serons très heureux de les accueillir. Alors, fêtez Kim Biopi. Je vous remercie infiniment. Et encore une fois, toutes nos félicitations et bon mois de la francophonie.
Merci.
CIUT 89.5 Toronto.
Deux cent soixante-quatorze millions de personnes parlent français dans le monde. Et pour le président Macron, la francophonie est un atout essentiel dans la mondialisation. La surprise, les francophones sont plus nombreux en Afrique qu'en Europe. En 2014, ils étaient 150 millions sur le continent noir, contre moins de 100 sur le vieux continent. Venaient ensuite les 20 millions des Amériques et des Caraïbes, suivis de loin par les 2,5 millions du Moyen-Orient et le petit million océanien. Une tendance qui devrait encore se prononcer, puisque 85% des francophones pourraient se trouver en Afrique en 2050. Mais d'après l'Organisation internationale de la francophonie, ces chiffres ne pourront se confirmer que si les 54 États membres renforcent l'enseignement de la langue de Molière. Avec 700 millions de francophones, elle deviendrait la langue la plus parlée dans le monde. Actuellement, le français arrive en cinquième position derrière l'arabe, l'anglais, l'espagnol et le mandarin, qui culmine avec 848 millions de locuteurs.
Et oui, il a été le chanteur du groupe rock alternatif Genwed, puis il est devenu auteur, compositeur, interprète. Son album Variation Fantôme, sorti en 2011, a été encensé par la critique. Il a également tenu le rôle de guitariste d'accompagnement de Pierre Lapointe. La personnalité dont je vous parle ici, l'artiste qui sera à Toronto bientôt, s'appelle Philippe B, qui est né en Rouyn-Noranda, dans le nord de Québec, a prouvé que le Québec en entier, les multiples raisons pour lesquelles il figure parmi les plus importants artistes de sa génération. Peut-être un peu méconnu de la part de certains jeunes qui sont ici avec moi. Je rappelle qu'en 2014, il a fait partie du spécial 10e anniversaire Histoire de guitare et du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue. Et dans un instant, nous allons avoir le plaisir de recevoir le directeur artistique, créateur de la série de spectacles de Bouche à Oreille, qui vous présente ce concert, Philippe B, auteur-compositeur québécois, le 6 mars à 20h à Heliconian Hall, avenue Hazelton, ici au centre-ville de Toronto. C'est pas très loin du quartier Yorkville. Et il y a quelques billets qui sont toujours disponibles. Nous avons le plaisir d'accueillir Dominique Denis. Et oui, bonjour Dominique, bonjour et bon mois de la francophonie.
Ben, merci beaucoup Eric, oui, pareillement.
Oui, alors on a une émission un peu spéciale avec des gens sur les 5 continents, mais on voulait absolument parler pour 2 minutes de ce concert, qui est un artiste qui n'est pas très connu à Toronto. Est-ce que je ne m'abuse de parler
vous,
de
vous ne vous abusez point, cher ami, oui. Mais ça va bientôt changer.
Oui.
En effet, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'inviter pour la première fois à Toronto un auteur-compositeur québécois que j'admire beaucoup, Philippe B, qui a longtemps travaillé avec, entre autres, Pierre Lapointe, mais qui fait carrière lui-même depuis 20 ans et qui a 5 albums à son actif. Et ça va être le 3e spectacle de la 3e saison de la série de Bouche à Oreille que j'ai l'honneur de diriger.
Oui. Alors, il sera accompagné avec d'autres musiciens, je pense. Hein?
Absolument. Ça, c'est la prémisse et la formule qui fait le succès de la série de Bouche à Oreille, c'est que j'invite des auteurs-compositeurs de la francophonie qui défendent et font rayonner la chanson à texte. Et ces gens-là viennent soit de France, de Belgique, du Québec ou d'ailleurs, et je les jumelle pour un soir seulement avec des musiciens, et par là j'entends des instrumentistes de la scène torontoise.
Mmh.
Donc Philippe B, vu le type de musique qu'il fait, son environnement poétique et chansonnier, j'ai cru bon de le jumeler avec 4 musiciens qui jouent des instruments avant. En l'occurrence, Rebecca Hennessy qui joue de la trompette, Paul Tarussoff qui joue du trombone, Peter Lutek qui lui joue du basson, du saxophone et de la clarinette, et John O'Lightstone qui est flûtiste, clarinettiste et lui aussi saxophoniste. Donc ça va être un peu au carrefour de la musique de chambre, du jazz, de la musique improvisée, mais toujours avec l'univers chansonnier de Philippe B en fil conducteur.
Alors, il faut dire que, et là, vous pouvez m'assassiner hein, en direct, j'ai pas de problème avec ça. Philippe B a coécrit 4 chansons avec Pierre Lapointe, Le bar des suicidés, À moi, sur son album Sentiments humains, et 2 chansons pour le plus récent album de Stéphanie Lapointe, Eau salée et une fleur. On dirait, quand on écoute ces chansons, il a un univers propre à lui. D'ailleurs, je demande aux gens d'écouter un extrait d'une de ses chansons qui s'intitule Explosion.
L'explosion.
Explosion, voilà.
C'est tellement beau, la destruction. Pourquoi tu fermes les yeux? Je voudrais te raconter une histoire d'avant nous deux, avant que se croisent nos trajectoires. Il était d'une fois une maison qui s'endort et un garçon qui s'enfuit. Son cœur éclate sans faire de bruit.
Alors, il y a une certaine mélancolie dans ces chansons, vous trouvez pas?
Tout à fait. Mais ce que je trouve qui est très beau dans l'écriture de Philippe B aussi, c'est que même lorsqu'il aborde des choses qui sont a priori très personnelles, oui, et qui sont vraiment ancrées dans le vécu, pour ne pas dire l'autobiographique, il trouve toujours une façon formidablement poétique de dire les choses, qui fait en sorte que on n'a pas vraiment l'impression d'être en train d'écouter un chapitre de la vie de Philippe B., mais plutôt une sorte de digression poétique et philosophique sur ce que c'est que la rencontre amoureuse, sur ce que c'est que la solitude, ou peu importe le sujet qu'il choisit d'aborder. Il le fait d'une manière qui transcende le moi, la première personne du singulier, et qui fait que on prend un immense plaisir à réécouter et réécouter ces choses-là, ne serait-ce que pour la qualité propre de l'écriture qu'il possède. Et ça, c'est assez rare. Puis avec cette voix aussi, c'est un de ceux qu'on entend, puis après 5 secondes, on sait exactement à qui on a affaire. Et c'est pas tous les autres. C'est pas tous les artistes qui sont comme ça.
Il y a aussi des vidéoclips formidables sur son site. Alors, nous sommes dans le mois de la francophonie, et les gens qui nous écoutent en ligne, ils sont nombreux, sont toujours curieux de savoir comment se porte la chanson française, la chanson francophone, comment se portent les concerts, les spectacles, les festivals dédiés aux francophones. Alors, lui, il a passé, Philippe B., au Festival de musique émergente. Ça, c'est en Abitibi-Témiscamingue.
Expliquez-nous. Oui, c'est d'ailleurs la région d'où il vient.
Justement.
Il vient de Rouyn-Noranda.
Alors, pour les gens qui nous écoutent en France, en Europe, en Afrique, où se situe Abitibi-Témiscamingue, cher ami?
C'est dans l'ouest et le nord du Québec, c'est-à-dire qu'on n'est pas tellement loin de la frontière avec le nord de l'Ontario. Mm-hmm. Rouyn-Noranda est beaucoup plus près de la ville de Hearst, par exemple, qu'elle ne l'est de Montréal. Donc, ça vous donne un peu une idée. C'est très, très loin. C'est 12 heures, 14 heures de route de Montréal. Et c'est vraiment un monde qui nous a donné, entre autres, Richard Desjardins, faut pas l'oublier, que Philippe B. admire beaucoup et auquel il a consacré d'ailleurs un album hommage dans lequel il a rassemblé une douzaine de jeunes artistes québécois. Et c'est un monde, je pense, qui, par son isolement, par sa proximité à la nature et tout ça, prédispose les gens qui sont là à un certain regard sur les choses.
À devenir poète.
C'est caractéristique de Philippe et de Richard Desjardins aussi.
Des grands poètes. Et je rappelle que Dominique Denis, madame, messieurs, qui est fondateur, directeur artistique, créateur.
Les deux.
De la série de spectacles de bouche à oreille. Mm-hmm. De bouche à oreille vous présente Philippe B., auteur-compositeur québécois, le 6 mars. Alors ça, c'est une belle salle. Il faut bien le dire, l'acoustique est intéressante.
Ah, le Heliconian Hall, c'est un bijou.
Exactement.
Si les gens ne connaissent pas cette salle à Toronto, pour moi, et je parle très objectivement ici, c'est la plus belle petite salle de spectacle de Toronto. Elle est nichée au cœur du quartier de Yorkville, construite en 1876, à l'époque donc où Yorkville était un lointain village au nord de Toronto. Et cette salle a cette particularité qu'elle est construite entièrement de bois, jusqu'aux fondations.
Oui.
Et ce qui fait que, si les gens connaissent un peu des questions d'acoustique, les propriétés acoustiques et tout ça, les bâtiments en bois comme Kerner Hall, par exemple, une très belle salle, ont cette qualité très chaleureuse. Et en plus, ils ont un magnifique piano Steinway que Philippe aura l'honneur de jouer et que nous aurons l'honneur d'entendre donc vendredi prochain.
Et il y a encore quelques billets?
25 à peine.
Wow.
Alors, il faut se dépêcher.
Oui.
Les billets se vendent de plus en plus vite et j'en suis ravi, bien sûr, mais j'aimerais bien que les auditeurs de Potpourri aient l'occasion aussi de s'en procurer.
Alors, comment faire pour acheter des billets rapidement?
On va sur le site de la série qui est le www.dbaoproduction.ca. DBAO, bien sûr, voulant dire de bouche à oreille.
D'ailleurs, sur notre site aussi, ils peuvent avoir tous les liens.
Fait.
Tous les liens. On fait de la publicité pour vous régulièrement. Donc,
je rappelle grandement apprécié.
Oui, Philippe B., c'est un nom à retenir parce qu'il travaille aussi en collaboration avec plusieurs comédiens, comédiennes, des artistes, entre autres en 2014. Il a participé à la réalisation et aux arrangements de l'album Merci Serge Reggiani, dont l'interprète est Isabelle Boulay, que j'aime bien, qui fait carrière pas seulement au Québec, mais très connu en France. Et donc, il y a 14 reprises des plus grandes chansons de Serge Reggiani. Et il travaille aussi conjointement avec Benjamin Biolay. Et il a joué également de la guitare acoustique sur certains de ses titres. Donc, en 2017, Philippe B. a sorti son 5e album intitulé La Grande Nuit, vidéo via Bon Sound.
Bon Sound, sa maison de disque, en effet.
Alors donc, il a quand même, je dirais, une discographie très intéressante, n'est-ce pas?
Oui, une feuille de route très variée, puis oui. Vous avez eu raison de souligner la diversité et la qualité de ces collaborations artistiques, parce que c'est souvent ce à quoi on reconnaît les grands artistes, c'est la qualité du monde qui, avec qui ils ont réussi à s'associer et dont ils ont enrichi les univers. Et à cet égard, Philippe B est un modèle, parce oui. qu'il ne se cantonne pas simplement à son petit carré de chansons, il va aussi dialoguer avec toutes sortes d'autres artistes avec des résultats toujours très convaincants.
Et là, nous avons une surprise. Philippe B est avec le quatuor Molinari, l'intégrale des variations fantômes,
oh,
spectacle au Conservatoire de musique de Montréal. Et ça, c'était un 17 février 2000 quelque chose. On écoute un extrait. Allez, en direct, au spectacle.
On a trop perdu de voix à aller crier sur tous les toits. On se fait du bien, on se fait du mal, mais on ne fait rien de bien original, toi et moi. La 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 la. Si tous les refrains sont repris, si tous les noms sont déjà pris, si tous les destins sont écrits, on se fait l'amour, on se fait la guerre.
Oui, Philippe B et le quatuor Molinari, madame, monsieur, c'était un spectacle fabuleux au Conservatoire de musique de Montréal. Ça, c'est pour donner justement un avant-goût aux gens de se déplacer, aller acheter vos billets. C'est le 6 mars prochain à 20h et nous avons le plaisir d'avoir Dominique Denis. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui.
Ça m'a fait grand plaisir et merci encore de vous faire porte-voix de la bonne chanson, Eric.
Oui, et le mois de la francophonie, vos voeux pour ce 50e anniversaire?
Ben, je souhaite que nous puissions continuer tous à rayonner dans notre langue et à la faire partager avec d'autres, et puis que, de toute façon, qu'on se rassemble pour des belles choses autour de la langue, mais aussi avec ceux qui viennent vers la langue, c'est-à-dire les francophiles. Il ne faut pas avoir l'esprit clocher, en d'autres mots. Ils vont être ouverts sur le.
Alors, il y a quelqu'un qui nous envoie des notes qui apprécie votre passage à l'émission d'aujourd'hui et me pose la question suivante. Est-ce que M. Denis connaît cette expression « les yeux dans la graisse de bine » ?
Bien sûr. Alors, je les avais d'ailleurs ce matin avant mon deuxième café. Jusqu'à mon deuxième café, ils étaient carrément dans la graisse de bine, mais je me suis remis de ça. C'est quand la nuit précédente a été un peu difficile,
voilà.
Et puis on est un peu mal en point, quoi.
Merci beaucoup et bon mois de la francophonie. À très bientôt. Au revoir.
Merci Eric, à bientôt.
Et oui, c'est avec enthousiasme que CUTFM célèbre cette année le mois de la francophonie et partout à travers le monde, il va y avoir beaucoup d'événements. Je vous demande d'aller consulter le site web de la Semaine de la Francophonie de Toronto.com. et vous allez avoir là tous les renseignements sur les événements, les activités, les spectacles qui s'annoncent dans le cadre du mois de la francophonie. Et nous allons aussi parler avec plusieurs auteurs, autrices, des professeurs, des chercheurs, mais aussi des jeunes, des humoristes, des linguistes, des gens qui font des choses très intéressantes. Et puis monsieur, madame, tout le monde aussi doit avoir son mot à dire dans notre mois de la francophonie. On veut que ce soit une émission de proximité. Eh oui, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires à vous partager. Et nous allons aussi avoir des interventions de nos médias partenaires de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo et aussi de l'île Maurice, de la Réunion, du Bénin. Alors donc ça s'annonce très bien. Dans un instant, nous allons descendre sur le campus de l'Université de Toronto, le campus de Mississauga, où se passent des choses. Il y a aussi le campus de Scarborough qui nous a envoyé des activités très intéressantes, qui se déroulera le 20 mars avec des politiciens et des gens de la communauté. Il y aura un genre de lunch, conférence, rencontre, échange. Et nous aussi, ici, on va célébrer le 20 mars sur le campus de Saint-Georges, mais aussi avec les étudiants du campus de Mississauga. Dans un instant, on en parle justement avec professeur Caroline Lebrec qui est avec nous, qui va nous présenter brièvement sa programmation de la semaine francophone. Et je vous rappelle la question du dimanche, qui sont les pères de la francophonie institutionnelle? Répondez brièvement, nous avons reçu quelques réponses, nous allons faire un tirage au sort à la fin du mois. Vous avez bien sûr un repas de 100, 200, 500 dollars, comme vous voulez, à la brasserie Gare de l'Est, située dans le Leslieville, Dundas, près de Carlore. Envoyez-nous une réponse immédiatement pour pourri@cut.fm. Les pères de la francophonie institutionnelle dans le cadre du 50e anniversaire de la francophonie. Et oui, elle est maître de conférences, responsable de liaison entre étudiants, équipe pédagogique, responsable à des activités sur le campus de Mississauga au département d'études langagières à l'Université de Toronto, le campus de Mississauga. Et elle a toute une programmation cette année pour, dans le cadre de la semaine de la francophonie, concours, soirée des talents et tant d'autres. Je pars ici de professeur Caroline Lebrec. Bonjour. Est-ce qu'elle est avec nous?
Ah, pardon. Bonjour, Eric.
Oui, vous êtes dans les nuages?
Un petit peu,
à la plage?
Je vous ai entendu, je suis là.
Je vous aime, juste...
Vous m'avez flatté comme d'habitude, alors oui, j'étais dans les
nuages. Et 50 ans de francophonie, il faut le faire, hein?
Oui, c'est ça. Donc, nous avons décidé de mettre le paquet, comme on dit, oui. Sur le campus de Mississauga, oui. Comme on avait fait il y a quelques années pour l'anniversaire du campus lui-même. Et cette année, c'est l'anniversaire de la francophonie. Donc, on a à nouveau fait appel à vous et à votre émission, Eric, pour pouvoir célébrer ensemble et au-delà du campus.
Alors, il faut dire qu'il y a une association des étudiants francophones très, très actifs, hein, ces étudiants de votre campus, l'association des étudiants francophones du campus de Mississauga.
Oui, tout à fait. Ils sont absolument formidables. Depuis plusieurs années, c'est une quasi même équipe qui porte ce club sous ma responsabilité. Et chaque année, ils sont absolument entièrement engagés. Vraiment des étudiants très compétents et formidables.
Oui.
Que je remercie beaucoup.
Et ouais. Vous avez une très belle affiche. Parlez-nous justement de ce concours d'éloquence, oui. Ou concours oratoire?
Oui, ben c'est basé effectivement sur les batailles d'éloquence. Nous, on ouvre la semaine de la francophonie le 16 mars sur le campus de Mississauga en offrant un concours oratoire qui est organisé en collaboration avec le campus Saint-Georges. Donc, il va y avoir des étudiants des deux campus qui vont s'affronter autour de thèmes que l'on a choisis, de sous-thèmes, si vous voulez, mais regroupés sous un thème principal qui est les diversités francophones, la francophonie dans toutes ses diversités.
Et ça se déroule le 16 mars de 5h, de 17h à 19h.
17h, voilà, 5 à 7, oui, sur le campus, avec les jurys, un professeur et une étudiante représentante de l'FPM, le club francophone. Mmh. Et...
bravo. Et il y aura aussi une soirée des talents.
Oui, alors ça, c'est notre rendez-vous annuel pour les étudiants qui veulent montrer une patte blanche autre que le contenu de ce qu'ils font habituellement dans les cours, du côté musical, danse, mime, poésie, chanson, etc. Donc oui, ça c'est le mercredi 18 mars, encore une fois un 5 à 7, de 10h à 19h sur le campus de Mississauga au Théâtre Mist. Et notre partenaire, notre nouveau partenaire local, le Cercle de l'Amitié, sera présent avec nous ce soir-là. Et il y aura un jury aussi, encore composé d'un professeur du campus et d'une représentante de la société académique du département d'études langagières. Donc encore une fois, un professeur et une étudiante et des prix à gagner.
Oui. Semaine francophonie très chargée sur les campus de l'Université de Toronto, Madame, Monsieur, et le 20 mars, le jour de la journée internationale de la francophonie, il se déroule quelque chose de très important au campus de Toronto, à Hart House, entre autres.
Oui, ouais. Tout à fait. Nous terminons cette semaine de la francophonie dans les locaux de la radio avec vous, Eric, et on vous remercie de votre... disponibilité. On a des groupes d'études, quatre groupes d'étudiants d'un cours d'oral, de pratique avancée, qui va venir vous rencontrer. C'est un projet expérientiel. Ils préparent des questions et ils vont vous questionner sur le rôle de votre édition et de la radio dans la diffusion des informations sur la francophonie locale, nationale et internationale.
Alors, il faut que je pratique mon français, cher professeur, afin de pouvoir être à la hauteur de la tâche.
Mais il n'y aura pas de problème. Et puis,
Alors, les gens ont beaucoup de plaisir ici. Alors, je rappelle aussi que votre collègue sur le campus de Scarborough organise aussi une rencontre le 20 mars. Il m'a invité, mais je dis, je ne peux pas me couper en deux, c'est impossible. J'ai déjà donné ma parole plutôt au professeur Lebrecht. Ce sera peut-être pour l'année prochaine. Vous, Corinne Bocchi, vous connaissez professeur Corinne Bocchi?
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ce jour-là, je suis au courant des activités formidables qu'elle organise.
Oui.
Et ce jour-là, elle reçoit un de nos partenaires aussi. Donc, nous n'avons pas pu l'avoir ce jour-là, mais on vous a eu, vous.
Oui, oui, oui. Alors, de toute façon, toutes ces informations, j'ai envoyé ça à l'équipe organisatrice de la semaine francophone de Toronto. Tout ça sera justement publié sur leur site web. Et c'est chez nous aussi, à Popourri Show et CUTFM. Nous serons très, très heureux de travailler avec vous encore une fois cette année. C'est tout un honneur, professeur. Comme vous êtes avec moi, je veux ici remercier tous ceux et celles qui ont participé à cette première émission de lancement. C'était un peu spécial, je ne sais pas si vous avez écouté l'émission, mais nous avons reçu professeur, docteur Emmanuel Lepuchon-Wortmann du CREFO, madame Céline Marcoux-Amad, qui a travaillé pendant très longtemps dans les bibliothèques de Toronto, Stéphane Cormier, qui est le grand Manitou de la maison édition Prise de Parole, Fété Kim Biopi, qui vient de recevoir un prix, elle est directrice générale de Sophie Franc dans la région de Niagara et qui monte tout un premier salon du livre dans la région du Niagara. Il faut le faire, n'est-ce pas? Alors, je pense que... Et puis, nous avons reçu, bien sûr, Dominique Denis, qui nous présente un artiste québécois dans sa série de spectacles, Philippe B, qui sera ici à Toronto le 6 mars. Alors, comme vous voyez, c'était une émission très, très, très chargée. Et vous êtes notre collaboratrice, co-animatrice, vous êtes touche-à-tout, n'est-ce pas, de notre émission et nous sommes très heureux que vous soyez des nôtres tout au long de ce mois.
Merci, oui, depuis quelques années, c'est vrai, avec grand plaisir.
Et vous saluerez bien sûr toute l'équipe du campus de Mississauga. On parle beaucoup de l'Université de Toronto, mais on connaît très mal tout le beau travail qui se fait sur les trois campus. Et je demande aux gens d'aller vous rendre visite parce que vous avez une architecture que j'aime particulièrement. C'est tout nouveau d'ailleurs.
Oui, sur le campus de Mississauga, notamment le bâtiment dans lequel le département d'études langagières est hébergé, est absolument magnifique, tout nouveau, écologique, de très beaux bâtiments d'un point de vue architectural sont réalisés sur le campus. On est très chanceux.
Alors, il y a une auditrice qui vous félicite, qui aime bien tout le travail que vous faites, et la question qu'on vous pose, qu'est-ce que l'expression « ça se vend au marché noir » Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça se vend au marché noir. Ça signifie, selon moi, quelque chose qui se vend illégalement.
Oui, je pense aussi. Hein. Rendre la monnaie de sa pièce.
Rendre la monnaie de sa pièce, rendre un coup, on appelle ça le backlash. On vient d'en entendre parler récemment avec la cérémonie des Césars en France.
Oui. Il n'a pas les pieds dans le même sabot.
Ne pas avoir les pieds dans le même sabot. Là, je vais peut-être me tromper. Ne pas être maladroit.
Oui. Alors, professeur Caroline Lebrec, je remercie aussi DJ Devera qui a été là avec nous et aussi Sloan Ballange. Je vous souhaite un bon mois de la francophonie. On se reparle très prochainement. Hein.
Oui, très prochainement. Merci beaucoup.
Au revoir. Voilà, madame, monsieur, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Deuxième émission spéciale dans le cadre 50 ans de francophonie et le mois de la francophonie. Passez une excellente journée. Envoyez-nous vos messages. Popourri@cut.fm. Ciao, ciao.